Venez participer aux journées méga portes ouvertes de l'association Aubépine à Hermes. Ce mercredi 1er mai de 10h à 17h, venez participer à une vente exceptionnelle spéciale DIM de vêtements neufs, adultes et enfants. Restauration sur place avec un poulet barbecue et des frites fraîches. Profitez-en pour découvrir l'association Aubépine Fleur de l'Espérance, le tout avec une entrée gratuite. Rendez-vous à Hermes, accès par la rue de Beauvais. Un événement en partenariat avec Happiness Radio. Happiness Radio, toujours au plus proche de vous.
Bonsoir à tous, on arrive d'ici quelques instants. Peliclap, il est actuellement 20h.
Happiness Radio.
S'arrête au plafond de ma chambre. Encore combien de temps, encore combien de larmes pour les faire redescendre. Je me sens bien nulle part, entre rêve et tourment, c'est dur de faire semblant. Je dois briser ce qui m'enferme, écouter les appels de mon cœur tremblant. Je partirai bien au bord de la mer. Le bruit des vagues étouffé doucement, ce silence inquiétant. Les pieds dans le sable, les joues encore salées, caressées par le vent. Dans l'air un doux parfum, c'est bien la première fois que je me sens vivant. L'horizon est immense, donnant plus de chance aux étoiles filantes. Je partirai bien au bord de la mer. Là où le goût n'est plus amer. Quitte à me perdre, je serais bien mieux là-bas. Si pour me plaire, je dois me trouver déjà. Alors je ferme les yeux et imagine tout ça. Quitte à me perdre, je serais bien mieux là-bas. Si pour me plaire, je dois me trouver déjà. Alors je ferme les yeux et imagine tout ça. Je partirai bien au bord de la mer. Là où le goût n'est plus amer. Je partirai bien au bord de la mer.
Greg vous parle ciné de 20h à 22h dans Peliclap chaque vendredi sur Happiness Radio.
Vous écoutez Happiness Radio. Hello les amis, on se retrouve là dans le Peliclap comme chaque mois. Ça fait plaisir de se retrouver voilà, au micro, c'est cool. Et ce week-end, on va s'intéresser à l'univers des séries. Oui, parce que dans le cadre du festival Sériemania qui s'est déroulé à Lille du 15 au 22 mars 2024, on va pouvoir parler un petit peu des séries. Alors, je vous cache pas que moi je vais vous parler un petit peu quand même du festival, c'est le but, c'est l'objet, mais on va aussi parler un petit peu de séries, de deux séries personnellement que j'ai énormément apprécié. Alors avant toute chose, rappelons ce que c'est que Sériemania. Sériemania, c'est un festival international consacré aux séries TV. Ah oui, voilà, Sériemania. Alors c'est des séries TV du monde entier qui existent depuis depuis 2010. Je parle du festival, hein, pas des séries, évidemment. C'est le festival qui existe depuis 2010. Alors, en fait, avant, il se déroulait à Paris, mais en 2017, il y a eu la candidature de notre belle ville de Lille qui a été retenue. Et le projet qui avait été à l'époque porté par Monsieur Xavier Bertrand, alors président de la région des Hauts-de-France, et Martine Aubry, maire de Lille. Et donc, depuis la 9e édition, c'est-à-dire en 2018, c'est bien la ville de Lille qui accueille ce prestigieux festival des séries, à l'image du festival de Cannes. Je pense que vous voyez ce que c'est, hein, mais Cannes, c'est pour les films. Et ben, Sériemania, c'est pour les séries et c'est à Lille. Voilà. Et ça cartonne, hein. Ça cartonne, car en 2019, il y a eu un chiffre qui est sorti. Lille a accueilli plus de 70 000 visiteurs et près de 3 000 professionnels accrédités. C'est énorme. Et l'année d'après, ils ont même passé la barre des 4 000. Donc, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Alors, le festival est géré par l'association du Festival international des séries de Lille et est basé au 17 Place Mendès France à Lille, c'est-à-dire dans le Vieux-Lille, près de la Grand Place, devant le Nouveau Siècle. Peut-être que vous connaissez un petit peu Lille. Eh bien, c'est là-bas que tout se joue. C'est au Nouveau Siècle, qui est en fait une salle de concert en réalité. Alors, évidemment, ça cartonne, hein, auprès des fans, mais aussi auprès des professionnels. Voilà, hein, parce que d'ailleurs, petite anecdote, en 2021 est créé le Sériemania Institute. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, c'est l'institut de Sériemania pour former au métier des séries, quel que soit le métier en rapport évidemment avec les séries, mais ça a été créé en 2021, ça a tellement cartonné le festival qu'en 2021, ils se sont dit on va faire quelque chose en rapport avec les métiers et on va l'associer au festival Sériemania. Bref, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, soyons honnêtes, là, il y a eu quelques éditions et moi, je le suis depuis quelques années là déjà. Et cette année, là, pour l'édition du festival Sériemania 2024, on a eu des très grandes stars comme l'année dernière. Mais là, j'ai l'impression que chaque année, ils augmentent un peu plus. Voilà, l'année dernière, on avait eu le droit, on avait eu le droit à Brian Cox, on avait eu le droit, enfin, il y avait Camille Combal qui était présent pour la cérémonie d'ouverture. Enfin, là, on a eu le droit vraiment à de très grandes stars, des stars qui sont même revenues parce qu'ils ont adoré, puis ils ont sorti aussi, ils jouent peut-être dans une série qui a ressorti une saison, donc du coup ils sont revenus, voilà. Et donc cette année, des grandes stars ont posé pied à terre sur le tapis rouge, enfin mauve, parce qu'en fait le tapis n'est pas rouge, il est mauve, mais on dit tapis rouge, pour nous en mettre plein la vue évidemment. Des conférences, des masterclass, des interviews, tout est fait pour qu'on adore, on adhère, et c'est exactement le but. Il y a énormément de bénévoles d'ailleurs qui s'engagent dans ce festival pour aller accueillir les stars qui arrivent lors de la cérémonie d'ouverture. Alors, des stars, je dis des stars, mais oui, tels que John Bradley West. John Bradley, par exemple, c'est celui qui joue dans le rôle de Sam dans Game of Thrones, et oui, le meilleur ami de Jon Snow. Voilà, on a eu aussi Camélia Jordana qui était là cette année, Audrey Fleurot qui joue dans la série HPI que énormément de gens connaissent évidemment. Il y a eu Kelly Rutherford, Patricia Arquette, Clémentine Célarier qui était déjà présente l'année d'avant, ou encore Laurent Lafitte qui était là, qui nous a donné d'ailleurs une superbe masterclass, ou encore Douglas Kennedy. Bref, des stars. On en veux-tu, en voilà, c'est exceptionnel. Ils arrivent, cérémonie d'ouverture, tout le monde est présenté, tout le monde est là, tout est beau. Et c'est la série Le Problème à Trois Corps, série avec notamment John Bradley, qui a fait l'ouverture du festival, qui a ouvert le bal cette année. Alors, il y avait une super photo qui a circulé où on a John Bradley qui est au centre, et puis il y a tous les gens, les personnages secondaires de la série Le Problème à Trois Corps, avec les masques là, c'était impressionnant. Je vous invite à aller sur la page Instagram de Sériemania parce qu'elle est exceptionnelle. Et cette photo, elle vaut de l'or quand même, elle est pas mal. Voilà, c'est une série en 8 épisodes qui place son histoire en Chine des années 60, où une jeune femme prend une décision qui aura des grandes conséquences dans le monde d'aujourd'hui, donc bien plus tard. Et en fait, un groupe de scientifiques et un inspecteur vont devoir affronter une terrible menace. Alors, je vous dis pas laquelle. Ah si, je vous dis, allez, je vous lâche peut-être un petit truc. Ah, une terrible menace, peut-être même la plus grande de toute l'histoire de l'humanité. Un premier contact de l'humanité avec une civilisation extraterrestre, voilà, qui prévoit d'envahir la Terre, mais je vous en dis pas plus, voilà. Alors, on a l'impression, quand on le dit comme ça, que ça se rapproche un peu des fois de la science-fiction, un peu d'anticipation aussi, un peu comme Independence Day, des très grands films qui ont cartonné à l'époque. Et ben voilà, bah là, c'est, on est dans une série avec notamment John Bradley, alias Sam dans Game of Thrones. Voilà, il a réussi d'ailleurs à se détacher de ce rôle parce que dans cette série, il est absolument fabuleux. Donc, il y a eu les deux premiers épisodes qui ont été projetés en version originale. C'est toujours des VO, évidemment, sous-titrés, enfin, Vost FR. Et donc là, les deux premiers de l'épisode pilote de la série ont été projetés. Voilà, alors, cette série, on dit que c'est John Bradley, on parle un peu de Game of Thrones, mais en fait, il faut savoir qu'elle a été créée par David Benioff et D.B. Weiss, qui sont en fait les créateurs de Game of Thrones. Et la série est en réalité une adaptation du roman qui s'appelle le même nom mais en anglais, hein. Donc je suis très mauvais, je vais quand même le prononcer, mais je suis très mauvais. C'est Three Body Problem, voilà, écrit par Liu Cixin. Alors pareil, je suis très mauvais aussi en mandarin, on m'excusera s'il y a des Chinois qui m'écoutent, et on les embrasse d'ailleurs. Mais voilà, je ne suis pas très très bon, désolé pour la prononciation. Voilà, donc c'est cette série en fait qui a fait l'ouverture qui était très attendue et évidemment John Bradley, ce grand acteur qui interprète l'un des personnages principaux de cette série. Alors, de nombreuses animations étaient organisées d'ailleurs pour répondre aux grandes attentes des séries maniaques. Les séries maniaques, c'est ceux qui sont maniaques des séries, c'est nous quoi en fait, c'est même moi là ce soir, je vous parle de ça, je suis série maniaque, voilà. Alors, il y avait des nombreuses animations telles que des masterclass, notamment celle de Camélia Jordana, Laurent Lafitte ou Audrey Fleureau de la série HPI. Il y a eu des dédicaces des acteurs et actrices de la série Plus belle la vie. Mais vous savez, le nouveau, là, il y a un nouveau Plus belle la vie. Ben voilà, il y a eu des acteurs et actrices qui sont venus pour faire une petite dédicace. Il y a une soirée spéciale, Saturday Disco Fever, à l'occasion de l'avant-première de la série allemande Disco 76. Je ne peux pas vous le dire en allemand parce que là, pour le coup, je ne sais même pas dire les noms, les chiffres en allemand, ni les nombres. Donc là, je ne peux pas. Série qui place son histoire en Allemagne de l'Ouest dans les années 70. Je pense que là, pour le coup, ça n'aurait échappé à personne. Pour raconter l'ouverture d'une boîte de nuit clandestine dans le sous-sol d'un restaurant. C'est intéressant. Il y a aussi eu dans les animations des séquences cultes, des séries cultes telles que Hannibal ou encore Starsky Hutch, c'est-à-dire des épisodes qui étaient projetés. Starsky Hutch, d'ailleurs, série dont nous avons un petit peu parlé dans un quart d'heure Pelli, mais on en reparlera pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'écouter, avec quelques autres précisions qui ne sont pas dans le podcast, évidemment. Des conférences aussi, comme celle sur le soft power des comédies romantiques qui s'est déroulée au Théâtre du Nord, ou encore la conférence sur le métier d'agent artistique animé par Elisabeth Tanner, qui est l'agent artistique qui a inspiré le personnage d'Andrea joué par Camille Cotin dans la série 10%. Voilà, pour ça je disais série tout à l'heure, parce qu'en fait ils ont expliqué ce que c'est que le métier d'agent artistique, enfin Elisabeth Tanner à expliquer ce que c'est le métier d'agent artistique, mais ça, en fait, ça vient de la série 10%. Je rappelle que dans la série 10%, en fait, c'est une série dans laquelle on suit un peu un agent artistique, hein, voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça, dans cette série, il y a pas mal de guests. Il y a Mimi Mati, il me semble que je crois qu'il y a Jean Reno. Enfin, il y a des guests, en fait, qui jouent eux-mêmes leur propre rôle. C'est assez drôle. Voilà. Bien, une rencontre aussi inédite avec la réalisatrice franco-suédoise Charlotte Brandstrom, qui a expliqué et dédicacé son livre intitulé Réaliser une série. Un livre très, très intéressant sur les coulisses, comment on pense une série, comment on la réalise, comment aussi on prend part à l'écriture, ça c'est très le travail de montage, ça c'est très très intéressant. Et même une lecture inédite de scénario de la nouvelle série Au fond du trou, créée par Maxime Chamou et Sylvain Gouverneur. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'ils ont lu en fait le scénario de la série. En fait, voilà, c'était une espèce de table ronde, ils ont lu le scénario. Enfin voilà, moi je trouve ça incroyable. C'est le genre de choses qu'on fait, notamment quand on se rappelle tous peut-être d'avoir vu cette superbe image où les acteurs de Big Bang Theory s'étaient rassemblés autour de la table et avaient lu le scénario de la dernière saison. Ils avaient pleuré parce qu'ils avaient dit, voilà, on sait que c'est la fin, c'est la dernière saison. Et voilà, bah, c'est exactement ça qu'on a vu, mais en direct. Voilà, et de la série qui s'appelle Au fond du trou. Enfin, il y avait une exposition au Village Festival sur les métiers cachés des séries. Par exemple, le styliste culinaire. Alors ça, c'est un métier qui a été très important dans la série Hannibal, parce qu'il fallait faire penser que le personnage mangeait réellement des morceaux humains, quoi, en fait. Bon, en fait, non, il mangeait pas des morceaux humains. On est pas, voilà. Mais il y a un styliste culinaire qui a tout imaginé. Mais on a aussi eu le droit au métier de chorégraphe ou encore de crieur professionnel, parce qu'il faut savoir que crier, c'est un métier. On se rappelle quand même de l'acteur qui s'appelle Vincent Price, qui est celui qui crie comme ça. Et ben, c'est lui qui crie dans le clip de notre ami Michael Jackson. C'est lui. Et d'ailleurs, Vincent Price est un crieur professionnel. C'est un comédien et un crieur professionnel. Et c'est lui qui crie dans l'attraction de Disneyland qui accueille dans la maison hantée. Enfin bref, voilà. Donc on pouvait découvrir voilà, ces métiers, leurs techniques, dans une exposition absolument fantastique qui rassemblait des costumes, des décors, des langues. Et on avait, en gros, on avait les vraies coulisses qui se trouvaient à Cerimania. Voilà. Alors, Cerimania, si on résume, c'est quoi ? Bah, c'est tout simplement un festival qui nous transmet la passion et le goût des séries. C'est exactement ça. Alors, Cerimania, on a cité tout à l'heure, on va rester un peu dans le thème quand même, on a cité tout à l'heure quelque chose d'absolument génial, je trouve, qui est apparu dans le paysage des séries, qui est donc une série qui a été une adaptation de différents livres, qui s'appelle Game of Thrones. On a cité tout à l'heure l'acteur John Bradley, qui joue dans Le Problème à Trois Corps, et en fait, donc il joue le rôle de Sam, et il joue dans une série qui a été créée par les créateurs de Game of Thrones. Eh bien, moi, je vous propose, là maintenant, de tranquillement nous reposer, on s'écoute la musique de Game of Thrones, la musique du générique de début qui est absolument fantastique. Moi, je joue de Ramin Djawadi d'ailleurs. Moi, je vous propose d'écouter, c'est maintenant sur Happiness Radio.
Du cinéma, c'est Happiness Radio. Pelliclap, c'est de 20h à 22h. On parle bien sûr cinéma avec Greg.
Et on était avec Ramin Djawadi qui nous montrait tous ses talents dans la musique du générique de Game of Thrones. On est là pour sur Happiness Radio pour parler de séries, étant donné que c'est dans le cadre du festival Cerimania qui s'est déroulé à Lille du 15 au 22 mars 2024. Alors évidemment, ce festival, il organise des compétitions. Ça me semble assez logique. C'est un festival donc qui remet des prix. Alors dans les compétitions, on a la compétition internationale parce que c'est un festival international. Donc on a la compétition internationale, on a le panorama international, la compétition française, la compétition des comédies, des formats courts, on a aussi le prix du public. Voilà. Alors, il faut quand même reconnaître que ça a été c'est un festival qui a énormément marché, qui marche énormément et qui effectivement se distribue des prix qui sont très très prestigieux, notamment le fameux Grand Prix en compétition internationale. Et bien là, cette année, en compétition internationale, le Grand Prix a été attribué à la série Rematch, série inspirée de faits réels qui raconte l'affrontement entre Kasparov, meilleur joueur d'échecs de tous les temps, qui est très connu quand même. C'est une série inspirée de faits réels, hein, il a vraiment existé évidemment, ce joueur d'échecs. Et en fait, il a joué contre l'ordinateur IBM Deep Blue. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu cette chose, c'est vrai, ça a vraiment existé. Et donc, c'est une série un peu qui, voilà, un peu un thriller un peu psychologique entre l'humain et la machine. Il y a aussi la remise en question de ce que c'est qu'un humain, ce que c'est qu'une machine, qui est le plus fort, qui est le plus stratégique, etc. Enfin, voilà. Ensuite, on a eu le prix du meilleur scénario, toujours en compétition internationale, qui est attribué au scénariste de la série allemande. Alors là, je suis désolé pour le nom, hein, c'est horrible, mais il n'y a pas de traduction. C'est Erhausen, truc comme ça. The Banker and the Bomb. Là, ça va mieux, c'est de l'anglais, même si ce n'est pas parfait. Le prix de la meilleure actrice a été remporté par Annette Bening, la grande Annette Bening, dans la série Apples Never Fall. Et le prix du meilleur acteur est attribué à Kamel Elbacha, dans la série House of Gods. Peut-être que vous connaissez de nom House of Gods, parce qu'elle a fait grand bruit ces derniers temps. Elle est très très bonne série d'ailleurs. En panorama international, on a le prix de la meilleure série qui est attribué à Dates in Real Life. C'est une série en fait qui relate le passage à l'âge adulte d'une femme introvertie. En fait, elle va devoir sortir petit à petit du monde virtuel dans lequel elle est vraiment complètement cloîtrée. Alors sur la photo, enfin je sais pas, il y a des photos qui ont circulé, puis c'est assez drôle parce qu'elle a vraiment le casque du virtuel, là, le truc qu'on se met sur les yeux là, comme sur la PlayStation, enfin c'est impressionnant. Et en fait, elle va s'immiscer petit à petit dans le monde réel. Donc, elle va sortir du virtuel pour rentrer dans le monde réel. Sauf que c'est difficile. C'est très difficile de sortir du virtuel pour re-rentrer dans le monde réel. Et en plus, elle va devoir rencontrer l'amour de sa vie suite à une déception amoureuse dans le monde virtuel. Donc, on a vraiment la dualité entre le virtuel et le réel. Et il y a quelque chose de très humain qui sera donc glissé dans cette série, c'est l'amour. Et donc, on va aussi comparer l'amour virtuel, parce qu'elle aimait quelqu'un qui était dans le monde virtuel, mais qu'elle n'a jamais vu. Elle connaissait juste sous son pseudo, en fait. Et finalement, suite à cette déception amoureuse, elle va essayer de sortir du virtuel pour aller chercher l'amour dans le monde réel. Très, très, très intéressant. D'où le titre « Dates in Real Life », en fait. Voilà. Dans la vraie vie. Le prix de la meilleure réalisation ainsi que le prix étudiant, les deux, sont tous les deux remportés par la série La Messias, qui est une série espagnole. Série où Henrique et Irénée, frères et sœurs, affranchis de leur secte familiale et de l'emprise de leur mère, vont vite découvrir que la liberté n'est qu'illusion suite à la diffusion d'une vidéo peu ou prou compromettante. C'est marrant parce que je trouve que le pitch un peu de cette série fait un peu penser à la pièce de théâtre La Familia de la Casa de Bernarda Alba. C'est en fait une femme qui est donc mère de plein de filles et qui est une tyrante finie. Et en fait, ça fait un peu penser à ça où en fait on a des enfants qui ont peur de leur mère, qui sont totalement sous l'emprise. Sauf que dans cette série-là, la Messias, en fait, ils vont essayer de sortir de ce cocon et ils vont enfin essayer de jouir de leur liberté. Mais en réalité, ils vont se rendre compte que c'est pas possible parce qu'ils vont toujours être ramenés à la famille, en fait. Voilà. Donc, très intéressant. Le prix de la meilleure actrice est remporté par Robin Malcolm dans la série néo-zélandaise After the Party. Et le prix du meilleur acteur est remporté par Carlis Arnold Avot dans la série Letton Soviet Jeans. En fait, il faut parler de cette série, c'est une série qui place son cadre spatio-temporel à la fin des années 70 en Lettonie. Donc à l'époque, on n'est quand même pas très loin de l'URSS, hein, on passe le cacher. Époque où la propagande anti-USA a fait rage, forcément parce qu'on est en plein milieu de la guerre froide. Donc URSS-USA, ils ne s'aiment pas trop. Et donc on a une propagande anti-USA. Sauf qu'en fait, la série s'appelle Soviet Jeans, parce que l'histoire se centre autour d'un fan de rock'n'roll, donc déjà rock'n'roll qui est donc le style par excellence des États-Unis, un fan de rock'n'roll qui réussit à mettre en place un réseau souterrain de fabrication de jeans, encore une fois, invention des États-Unis, dans un hôpital psychiatrique. Donc forcément, ça va faire énormément, beaucoup de bruit et ça va faire beaucoup de débats parce qu'on est en URSS, on est dans les années 70, en pleine guerre froide, sauf qu'il y en a un qui a l'idée de faire créer son propre réseau de jeans, sauf que c'est une invention américaine. Donc forcément, là, bah, y a une confrontation entre les deux, énorme, évidemment, en pleine guerre froide. À noter d'ailleurs que cette série a remporté aussi le prix du public. C'est pour ça qu'il est important d'en parler, parce que le public a largement été conquis par, par cette série qui est assez... en suspense. On est quand même sur un scénario qui se base sur les plus grands, les plus grandes séries à suspense, je dirais même à la limite du thriller, parce que bah voilà, c'est y a une tension énorme due au contexte politique qui cadre qui place le cadre spatio-temporel de la série. Voilà, en compétition française. Alors parlons de la France un petit peu. Et oui, parlons de la France. Le prix de la meilleure série est attribué à Machine. C'est une série avec Marco Bansilon. Alors peut-être que je prononce pas très bien, mais elle est très connue en plus. Je suis désolé. Qu'on avait déjà vu d'ailleurs dans la série De Grâce l'année dernière à Sériemania. Elle était à l'affiche dans cette série. Et ben là, on la retrouve dans Machine. Mais c'est aussi une série avec Joestar qu'on ne présente plus évidemment. Joestar, tout le monde le connaît. Et en fait, la série raconte la rencontre entre deux personnages qui ont très peu en commun, mais qui sont très complémentaires. En fait, c'est une jeune solitaire maître de kung-fu qui va rencontrer un ancien toxico complètement marxiste. Voilà. Et en fait, en gros, l'histoire c'est une histoire sur la lutte des classes, notamment la lutte pour la classe ouvrière. Et il va y avoir clairement des chocs, pour ne pas dire des chocs de culture, mais des chocs... un choc générationnel, il y a plein de choses entre cette jeune solitaire et l'ancien donc Joestar qui est beaucoup plus vieux et qui est un toxico marxiste fini, voilà. Donc c'est une série qui est intéressante notamment dans le rapport aux générations aussi. Il y a pas uniquement que l'aspect on va dire peu ou prou politique derrière, et la lutte aussi, il n'y a pas que ça, il y a aussi le choc des générations entre ces deux personnages qui n'ont absolument rien en commun, mais qui vont devoir s'associer finalement, de façon un peu hasardeuse d'ailleurs, hein. Ils n'ont rien en commun, mais ils vont quand même se retrouver là, et ils sont complémentaires en fait, rien en commun mais complémentaires. C'est d'ailleurs pour cette raison que la série marche très bien et qu'elle a eu le prix de la meilleure série française. Le prix de la meilleure actrice est décerné à Tiphaine Davio dans la série Murder Club. Le prix du meilleur acteur est remporté par Jérémy Gillet pour la série Une amitié dangereuse. Et le prix de la meilleure musique originale est attribué à Julie Rouet pour la série Le monde n'existe pas. Voilà. Alors... on bascule très vite sur les compétitions comédie. C'est la série australienne Videoland qui remporte le prix de la meilleure série. En fait, c'est une série qui met en avant la recherche de la sexualité. Donc là, ici, on parle d'une sexualité lesbienne, mais dans les années 90. Donc forcément, ça n'a pas le même impact qu'aujourd'hui. À l'époque, bah, c'est pas vu de la même façon. Et donc, c'est une jeune femme qui, en fait, travaille dans un vidéoclub. Donc on est très clairement sur une série un peu cinéphile, parce que c'est une jeune femme qui travaille dans un vidéoclub et en fait elle veut s'inspirer des films qu'elle a vus pour trouver sa voix ou son orientation sexuelle. Et donc elle va s'orienter vers l'homosexualité et donc du coup en rapport avec le vidéoclub qu'elle tient, les films qu'elle a vus, elle veut essayer d'impressionner la fille de ses rêves qu'elle a rencontrée. Voilà, grosso modo, c'est ça. Alors, c'est une série comique parce que forcément, on est dans la comédie parce que forcément, on a des situations qui vont faire que on est très clairement dans la comédie. Il y a des moments où elle ne va pas savoir se placer, elle ne va pas savoir comment réfléchir, elle ne va pas savoir quoi dire. Donc, on a tous les comiques, le comique de gestes, le comique de situation, le comique de mots. Voilà. Tout s'entremêle pour donner une très bonne comédie, et c'est une comédie, une série australienne. Voilà. En compétition format court, on finit là-dessus, c'est la série qui s'appelle Ceux qui rougissent, qui remporte le prix de la meilleure série. Voilà. Alors, la page Instagram Sériemania, parce que là, on a parlé de l'édition, c'est très bien, effectivement, elle était très bien. La page Instagram Sériemania a déjà dévoilé les dates du prochain festival. Alors, ne l'oubliez pas, je vous les donne, mais de toute façon, vous pouvez les retrouver sur la page. C'est du 21 au 28 mars 2025. Et on y sera, comme d'habitude, au plus près des événements pour vous. Parce que ça nous fait plaisir, parce que j'aime ça. Donc, voilà, on peut se matcher hein, sans problème. Et puis, on essaiera d'être au plus près de, voilà, des acteurs, des actrices, de leur masterclass, de leur conférence, parce que c'est important. Allez, eh ben, on va fermer ce petit... Voilà, on va se quitter tout doucement avec la musique du générique Magnum P.I. Et oui, vous la connaissez. Alors, pourquoi Magnum ? Bah, parce que j'aime bien. Voilà, on est dans les séries, j'aime bien Magnum. J'aime bien Tom Selleck, j'aime bien sa petite moustache. Et puis, ses chemises hawaïennes. Très, très cool. Voilà, les années 80 en force. Alors, je dis ça, mais je suis pas du tout les années 80, moi. Mais par contre, j'adore les années 80, que j'ai découvert a posteriori. Voilà, un peu de nostalgie, sur Happiness Radio avec la série des années 80. On retrouve Thomas Magnum, Higgins, Terry et Rick pour une nouvelle aventure. Restez avec nous sur Happiness Radio, c'est Magnum P.I.
Clap, l'émission où on parle cinéma avec Greg, chaque vendredi de 20h à 22h sur Happiness.
Et vous écoutez Happiness Radio et ensemble on parle des séries, oui, les séries, on adore ça. À l'occasion du festival Sériemania, pour ceux qui nous rejoignent, il s'est déroulé à Lille du 15 au 22 mars 2024. Et on a déjà expliqué le festival Sériemania, hein, ce que c'était, qui a gagné, etc. Et bien maintenant, après avoir expliqué le festival, eh ben, on va peut-être passer aux séries. Enfin, aux séries que moi j'ai choisies, que j'aime beaucoup. On va parler d'une série, voilà, un classique des années 70. Bah oui, voilà, je suis un petit peu vieux jeu, pardonnez-moi, j'aime beaucoup. Les années, resituons un petit peu si vous voulez bien. Dans les années 70, il y avait quoi ? Il y avait énormément de séries policières. Oui, alors à l'époque, nous on a eu des séries policières qui ont été retransmises en France, mais la plupart sont américaines, il y a aussi eu des séries françaises évidemment, mais la plupart sont américaines. Et les années 70, c'est vraiment un classique des séries, dans les séries policières, c'est la base de tout. Et c'est tellement classique que je dirais que Sériemania a jugé bon de projeter deux épisodes de la série dont je vais vous parler. Et ben c'est la série Starsky & Hutch. En fait, Sériemania a projeté dans des salles de cinéma un épisode en VF et un épisode en VO. Et c'est aussi en fait pour rendre hommage à David Soul, l'acteur de Hutch qui nous a quitté le 4 janvier 2024. Et effectivement, bah pour le rendre hommage, ils ont projeté deux épisodes. Alors il y en avait un le lundi et un le jeudi. Alors Starsky Hutch, c'est énorme. Que dire sur cette série ? Déjà, il y a une belle voiture rouge. Je pense qu'il faut. Qui ne connaît pas la Ford Gran Torino de Starsky, la voiture rouge ? Alors, vous saviez que Hutch, il appelle toujours, tout au long de la série, il va l'appeler la grosse tomate. Il déteste. C'est assez drôle parce que Starsky n'aime pas la voiture de Hutch, qui est une voiture marron, horrible, cabossée de partout. Et Hutch n'aime pas la voiture de Starsky. C'est-à-dire une voiture de sport magnifique. Il prend toujours soin. Il dit il faut pas manger à l'intérieur de la voiture. Enfin, ce genre de choses. C'est assez drôle. Enfin, il dit ça, mais je pense qu'il y en a un épisode, il mange quand même à l'intérieur. Hein. Mais bon, bref. Donc voilà, ils se chamaillent tous les deux, c'est des comme deux frères. Alors on commence cette série par la voiture, mais c'est pas anodin parce que en fait la voiture était présente, une réplique officielle était présente à Lille, à Cerimania, et elle était magnifique d'ailleurs. Alors il faut savoir, parlons un peu de cette voiture. Il faut savoir qu'en fait la voiture officielle de la série qui a été utilisée pendant les 4 saisons, elle se trouve en France. Oui. En fait, c'est quelqu'un qui l'a racheté, un collectionneur, et elle se trouve en France. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je me demande même si c'est pas celui qui possède cette voiture, s'il n'est pas en Picardie. Je crois que j'ai lu ça dans quelque part. Voilà. Après, je ne vais pas donner son adresse parce que de toute façon, je ne l'ai pas. Mais effectivement, je crois que c'est un Français et je crois qu'il est en Picardie. Bref, et vous savez qu'il y a eu d'autres réplique officielle. Alors attention, c'est quoi une réplique officielle ? C'est une réplique qui a été approuvée par les créateurs de la série. Et en fait, c'est une voiture qui a été faite en plus... une fois que la série Starsky Hutch avait cartonné dans les années 70, ils ont sorti ensuite, parce que la série est de 75, mais on va en reparler là dans un instant. Mais en fait, c'est une série qui très clairement, en fait, a cartonné à l'international grâce à sa voiture. Et il y a eu des voitures après qui ont été confectionnées, qui ont été faites. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais en tout, il y a eu 3 millions d'exemplaires qui sont sortis. Mais sauf que dans ces 3 millions, il y en a très peu qui étaient des voitures officielles, c'est-à-dire les répliques exactes avec la même plaque d'immatriculation, avec les mêmes l'intérieur pareil. Il y en a eu très peu finalement. Je crois que on est sur 2000 voitures vraiment ressemblent très clairement à celle de la Gran Torino de Starsky Hutch. Alors, c'est une Ford Gran Torino rouge avec un trait blanc de part et d'autre et un qui se poursuit au milieu, sur le capot. Donc, voilà. Et en fait, après, du coup, il y a eu d'autres voitures qui ressemblaient à celle de Starsky Hutch, qui étaient des Ford Gran Torino, mais qui n'étaient pas des répliques officielles. Alors, qu'est-ce qui change, vous allez me dire ? La plaque d'immatriculation, c'est pas la bonne. Ou alors, elle n'est pas placée au bon endroit. Les roues ne sont pas les mêmes. Quand je dis les roues, je parle des pneus. D'autres choses changent. Il y a des répliques qui ne sont pas officielles ou en fait, c'est des modèles plus petits. En fait, si vous les mettez à côté de la vraie voiture, elles sont plus petites. Voilà. Alors, autre chose, la voiture, enfin, une des répliques officielle, donc qui fait partie des 2000 officiels, a été utilisé pour le film Starsky Hutch, parce qu'il y a un film qui est sorti en 2004 avec Ben Stiller et Owen Wilson, et en fait cette voiture a été réutilisée, elle a été utilisée pour le film. Et ce qui est assez drôle, c'est que par contre, à la fin du film, Starsky Hutch qui est de 2004, on voit la vraie voiture de Starsky Hutch qui a été utilisée pour la série. Et c'est les deux acteurs qui l'amènent, justement, David Soul et Paul Michael Glaser, à la fin du film. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, mais on les revoit, ces acteurs-là, originaux. Et ils arrivent avec la vraie voiture de la série, et non pas la voiture, une réplique officielle qui a été prêtée pour le tournage du film. Voilà, c'est des petites anecdotes. Et alors, pourquoi on parle de cette voiture ? C'est très important, tout simplement parce que c'est la voiture, très clairement, qui est l'emblème de Starsky Hutch, j'irais même des années 70, j'ai envie de dire des années 70, voilà, c'est la voiture des années 70, c'est la voiture qu'il faut dans son garage, voilà, donc en tant que cinéphile. Alors, revenons petit à petit sur la série. On va quand même se le dire, la série, c'est une vraie série, voilà. Alors là, je vais être très clair, je ne vais pas passer par quatre chemins, ce n'est pas un long film qui a été saucissonné en séquences filmiques. Exemple, Game of Thrones. Ce n'est pas ça. Voilà, c'est une vraie série. C'est quoi une vraie série ? Une série de base. C'est le concept de la série à la base, c'est quoi ? C'est qu'en fait, une série, c'est un concept. C'est-à-dire qu'on a des personnages, on a un univers ou un monde qui est créé avec des personnages, avec un concept, un schéma. Et ce concept revient à chaque fois, avec des caractéristiques qui reviennent dans chaque épisode. Je prends un autre exemple qui va certainement vous marquer. La série Stargate SG-1, c'est quoi le concept ? C'est quatre personnes qui sont ils sont aux États-Unis. Voilà, ils allaient dire dans l'espace, mais non, pas encore. Ils sont aux États-Unis et ils ont une porte et ils vont traverser la porte. Dans chaque épisode, ils traversent la porte et ils vont aller chercher des rencontrer des mondes, parce qu'il y a plein de mondes qu'ils ne connaissent pas. C'est la porte des étoiles, qui est une porte qui permet d'aller dans d'autres mondes, voilà, très très loin, même à des années-lumière. Et pourquoi ils font ça? Bah, ils vont aller chercher des amis, des alliés, pour pouvoir contrer les Goa'ulds, qui sont les premiers méchants de la de l'épisode qui s'appelle Enfant des dieux, Children of the Gods. Je suis vraiment mauvais en anglais, je suis vraiment désolé, mais voilà. Bref, et ben c'est ça une série. On a un vrai concept derrière qui est avec un schéma qui est repris dans chaque épisode. Alors je vous prends Stargate SG-1, mais c'est vraiment l'exemple type, parce que Stargate en plus ça a cartonné, ça fait 10 saisons et ça a même fait un univers avec Stargate Atlantis puis Stargate Universe. Et il y a même une dernière série qui est apparue. Elle doit être de 2020 ou 2021, soit c'est 2020, qui s'appelle Stargate Origins, qui en fait revenait sur les origines de Stargate, mais qui n'a pas été doublée en VF malheureusement. Il me semble qu'elle a été doublée, enfin elle est en VO, mais je ne pense pas qu'elle soit en VF. Mais bon, bref, peu importe. Et donc voilà, et en fait c'est ça, c'est des univers qui sont créés et on a un schéma qui se répète. Et ben Starsky Hutch, c'est ça. Starsky Hutch, c'est des enquêtes avec un schéma qui se répète et avec des caractéristiques communes. C'est exactement ça qui est très important à comprendre pour une série. Ce n'est pas comme Game of Thrones, c'est-à-dire des épisodes qui sont, on va dire, peu ou prou à la suite, et en fait, sont un peu saucissonnés parce que l'épisode d'après, c'est très clairement la suite de l'épisode d'avant. Mais en fait, dans l'épisode d'avant, il se passe pas grand chose, c'est-à-dire on nous explique ce que l'un fait là-bas, l'autre fait là-bas, puis l'autre là-bas, puis l'autre là-bas, puis on met tout ça ensemble, ça nous fait un épisode. Puis en fait, si tu veux comprendre ça, il faut regarder le sud après. En fait, on a changé totalement de concept de série. Et en fait, ce qu'on appelle aussi il y en a qui définissent par les séries d'anthologie, en fait. C'est-à-dire, voilà, c'est une série que si tu veux la comprendre, tu es obligé de regarder la saison, voire la série entière. Alors qu'en fait, dans les années 70, 80, 90, je dirais même dans les années 2000, si tu voulais comprendre la série, il n'y avait qu'à regarder un épisode. Ce qui te plaisait dans la série, c'était en fait très clairement le concept, le personnage, les caractéristiques. Ce n'était pas uniquement vraiment l'histoire. D'ailleurs, il y a certaines séries qui n'ont pas du tout de fil rouge derrière. Starsky Hutch n'a pas de fil rouge. Stargate SG-1 a un fil rouge. Le but, c'est de contrer les Goa'ulds. Alors, et on change de méchant, hein. D'abord c'est Apophis, après il y aura Seth, il y aura Anubis, il y aura à la fin ce sera les Ori. Enfin voilà, il y a plusieurs méchants, mais derrière il y a quand même un fil rouge. Alors que dans les années 70-80, je reprends par exemple, on écoutait Magnum tout à l'heure, il y a pas tellement de fil rouge. Il y a un fil rouge par rapport à l'histoire de Magnum derrière, ça c'est vrai. Mais par contre, il y a pas de fil rouge énorme, c'est pas comme la série Stargate SG-1 ou les autres Stargate d'ailleurs, ou alors une autre série qui clairement a révolutionné tout, ça a été Lost, qui avait une super série, qui avait un fil rouge magnifique, mais ils ont été extrêmement malins dans l'écriture parce que en fait chaque épisode non seulement est important pour comprendre le prochain, mais pour comprendre aussi par exemple, l'épisode 6 de la saison 4, il fallait absolument avoir vu l'épisode 2 de la saison 2. Parce qu'en fait, il y a des liens. Et d'ailleurs, même si tu l'avais pas vu, bah, c'est pas grave, parce qu'ils font mais c'est le but aussi, ils reviennent sur la temporalité de la série. En fait, ils jouent avec le spectateur et la temporalité. Et ça, c'est exceptionnel. De toute façon, Lost est un chef-d'œuvre d'écriture, hein. Voilà. Et puis, pour moi, c'est la meilleure incarnation de ce que c'est que le fantastique à l'écran. C'est-à-dire cette incertitude qui a été définie par Tsvetan Todorov, qui est un critique littéraire, qu'il a écrit dans son tout petit bouquin qui s'appelle Introduction à la littérature fantastique. Enfin bref. Et donc, pour moi, Lost, c'est la meilleure interprétation possible de ce que c'est que l'incertitude, le fantastique à l'écran. Bref. Donc, si on revient sur ces concepts-là, oui, on peut avoir un fil rouge, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Il y a d'autres séries qui ont essayé de révolutionner, comme 24 heures chrono, qui, elles, le concept, c'était d'avoir 24 épisodes, et chaque épisode, c'était une heure en temps réel de ce qui pouvait se passer. Ça, c'est un concept qui était très clairement, très très bien imaginé, super bien joué par Kiefer Sutherland, qui interprète Jack Bauer. Mais on n'est pas du tout sur une série. Là, pour le coup, pour regarder l'épisode 3, bah, il faut avoir vu l'épisode 1 et 2. Parce qu'en fait, ça se suit en temps réel. Mais ça, c'est le concept de la série qui veut ça. C'est pas juste une série où on met des choses qui sont bout à bout. C'est le concept qui veut ça. Et ben voilà, une série, c'est un concept. Et Starsky Hutch, ça en est un. Et c'est quoi le concept de Starsky Hutch ? Eh bien, c'est la police de Bay City qui peut totalement compter sur ses deux héros parce que les truands sont partout. La police peut compter sur David Dave Starsky et Kenneth Hutchinson, plus connu sous les noms de Starsky Hutch, voilà. D'ailleurs, dans la série, ils s'appellent comme ça, ils s'appellent même pas par leur prénom, hein, ils s'appellent par leur nom de famille qui devient d'ailleurs des surnoms. Et d'ailleurs, nous, on dit Starsky Hutch. Hein. C'est un peu comme MacGyver. MacGyver, c'est son nom de famille. C'est pas son prénom. C'est comme Magnum. On l'appelle Magnum alors qu'il s'appelle Thomas. Enfin voilà. Ça devient des surnoms en fait. Et les deux détectives sont respectivement interprétés par Paul Michael Glaser et David Soul. Alors côté personnages, ils sont aussi aidés alors des deux côtés de la loi. Hein. D'abord, on a Huggy Jackson, dit Huggy les bons tuyaux, qui tient un bar qui s'appelle le Pitts. Huggy, on l'adore, voilà, c'est mon chouchou Huggy, très drôle en plus. Puis alors il est doublé en français, on reviendra sur le doublage un petit peu après, mais voilà, c'est Monsieur Ogier, je l'adore. Et le grand et fougueux capitaine Harold Dobé qui s'érige un peu en père du duo. Il y a toujours un petit peu ce côté paternel, puis il est toujours en train de crier sur Starsky comme ça. Enfin voilà, c'est génial. Et c'est cette voilà, on se retrouve en fait avec un joli quatuor qui oscille entre enquête, humour, gravité, vie sentimentale. Et il faut souligner que Starsky et Hutch, avant d'être collègues, ils sont amis. Ils sont un peu comme des frères, en fait. D'ailleurs, dans quelques épisodes, ils ne manqueront pas de risquer leur vie l'un pour l'autre, hein, très clairement. Cette proximité, cette fusion qu'il y a entre les deux personnages, elle est assez inédite à l'époque à l'écran. En fait, on avait des séries TV policières, comme par exemple Police Story, diffusée en 73, ou alors Le Sergent Anderson en 74. Et en fait, Starsky Hutch, dans ces séries-là, on n'a pas vraiment de sentiment, on n'a pas vraiment d'humour. Starsky Hutch va justement mettre cet humour et mettre aussi cette grosse cohésion, ce lien un peu des frères quoi à l'écran. Et ça, c'est très, très, très important. En fait, Starsky Hutch ajoute une dimension sentimentale, amicale, à la limite même, je dirais même, allez, du familial. Tellement on voit qu'ils sont frères, quoi, dans le rapport entre les deux personnages. En fait, c'est à la manière d'un autre duo de série TV qui avait cartonné, je sais pas si vous connaissez, s'appelle Amicalement Vôtre, avec le duo Brett Sinclair et Danny Wilde. C'est exactement ça. On a deux personnages qui s'aiment énormément. Alors par contre, dans Amicalement Vôtre, en fait, ils se détestent au début, mais ils sont prêts à risquer leur vie l'un pour l'autre, en fait. Parce qu'il y en a un qui est américain, l'autre qui est anglais, il y en a un qui est riche, aristocrate, donc l'anglais, l'autre, il vient des quartiers populaires. Enfin, ils n'ont rien en commun, quoi. Vraiment rien. Mais ils sont encore une fois très complémentaires. Et c'est pareil dans Starsky Hutch, sauf que dans Starsky Hutch, il y a une complémentarité, non pas parce qu'ils s'opposent, il y a une complémentarité parce que c'est original dans des séries policières. Donc voilà. Et en fait, cette relation puissante, justement, on le disait, c'est pas seulement l'élément inédit. L'autre élément, ça a été justement l'humour. Et l'humour, il est très clairement interprété par Starsky. En fait, d'ailleurs, la légende raconte que l'acteur, donc Paul Michael Glaser, en fait, il décroche le rôle de Starsky. Il a réussi à décrocher le rôle. Déjà parce qu'apparemment il n'y avait pas beaucoup de candidats, mais ça n'enlève rien à sa prestation. Mais c'est surtout qu'il a impressionné lors de l'audition, parce qu'en fait il a passé une audition d'une scène interrogatoire. Et en fait, au lieu de jouer le policier agressif, sévère lors de l'interrogatoire, en fait il a préféré ça jouer cette scène en totale dérision, avec beaucoup de tranquillité comme il fait dans toute la série, beaucoup de calme. Et avec beaucoup d'humour aussi. Et en fait, ça a surpris le directeur de casting et le créateur de la série, qui s'appelle William Blind d'ailleurs. On l'a pas dit quand même. Et en fait, c'est cet humour qui va réussir à faire démarquer. Et d'ailleurs, même des jeunes générations pourront regarder cette série parce que, certes, elle est un peu violente pour l'époque. On va voir qu'elle le sera de moins en moins. C'est ce qui va faire taire la série, manifestement, à la fin de la saison 4. On va en parler là juste dans un instant. Mais effectivement, cet humour, c'est ça qui a clairement conquis. À l'époque, les téléspectateurs américains, mais aussi les téléspectateurs français. Puis il y a autre chose qui a conquis les téléspectateurs français, c'est la VF, qui était absolument exceptionnelle, avec des voix qu'on reconnaît, qui sont géniales. Si on revient sur l'humour, en fait, on disait que ça pouvait faire taire la série, parce qu'en fait, cet humour qui était clairement original, qui oscillait entre les scènes de violence et de combat, ça faisait la force, l'originalité de la série, en fait, ça va devenir contre-productif dans la saison 4, et on le voit un petit peu aussi dans la saison 3. Car en fait, depuis, il faut replacer un contexte. En fait, dans les années 70, la série est sortie en 75, hein, dans les années 70, alarmé par les conséquences des émeutes raciales dans la fin des années 60, le Congrès américain il s'inquiète d'une hausse de la violence dans la société, notamment parmi les plus jeunes. Et d'ailleurs, c'est à l'image de la série Starsky Hutch où dans certaines affaires, bah, des jeunes sont impliqués, des affaires très graves d'ailleurs, y a des jeunes qui sont impliqués. Donc finalement, le Congrès va pointer du doigt un responsable. Et comme les jeux vidéo n'existaient pas à l'époque, qui est-ce qu'on va pointer du doigt ? Bah, la télévision. Voilà, la télévision, c'est eux, leur fiction, ils nous encouragent à la violence, enfin tout le discours très politisé quoi. Voilà, donc ça a forcé la série Starsky Hutch à revoir les scénarii des épisodes et la place de la violence dans les scènes emblématiques correspondant aux péripéties et résolutions du conflit. C'est en gros, dans le schéma narratif, on a situation initiale, élément perturbateur, péripéties, résolution du conflit, donc du problème, et situation finale. Eh bien, on avait souvent de la violence dans les péripéties et la résolution du problème, du conflit, et ben là, ils vont être obligés d'enlever cette violence. Et en clair, il fallait trouver un moyen pour montrer moins de coups de feu, moins de violence physique à l'écran. Et c'est là que l'humour intervient. Voilà. Les comiques de gestes, de mots, de situations, les costumes, tout est utilisé pour compenser une espèce de déficit de bagarre et d'échange de tirs. Bon, pour les Américains, la série, dans la saison 4, elle plaire clairement de son âme et de son originalité, ce qui n'est pas tout à fait faux. Et surtout qu'il y a un très gros changement en saison 4, c'est que Hutch, il a une moustache, et moi, j'aime pas du tout. Voilà, c'était personnel, j'avais envie de le dire. Voilà, je suis pas très fan. Hein. Je n'ai pas compris, d'ailleurs, pourquoi ils ont mis une moustache, mais bon, peu importe. Et cette série, qui voulait mélanger les genres, finalement, est tombée un peu dans la comédie policière, avec très peu d'action, donc ça n'a pas conquis, en fait, les téléspectateurs américains. Donc, moins d'engouement, moins de spectateurs, eh bien, c'est la dure loi des séries TV, messieurs, dames, la série s'arrêtera à la fin de la saison 4. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, alors, il faut avouer quand même qu'en France, la série connaît un énorme succès grâce à deux éléments extra-scénaristiques. Je parlais tout à l'heure du doublage. Effectivement, le doublage, c'est quelque chose d'extrêmement important. On va pas se le cacher. Des voix telles que Jacques Balutin, qui est la voix de Starsky Hutch. Alors, Jacques Balutin, vous le connaissez peut-être pas. Est-ce que vous avez vu Toy Story ? Bien sûr, vous avez vu Toy Story. Eh bien, c'est la voix de Zigzag. Quand il dit « Hey, les copains !» Comme ça, je fais très mal, hein, Jacques Balutin, excuse-moi. Mais ben voilà, ben, c'est la voix de Jacques Balutin. Et donc, c'est la voix de Starsky, qui est une voix quand même très connue. Il a souvent fait il a doublé des personnages qui étaient peut-être intervenus dans des petits rôles, voire des rôles principaux, mais de séries TV. Donc, ils sont des invités, quoi, des guests. Et puis, on a évidemment la voix exceptionnelle de Hutch, qui est Francis Lax. Et Francis Lax, vous savez qui c'est ? C'est cette voix un petit peu comme ça. Alors, je fais très mal, pardon Francis, hein, mais c'est la voix de Han Solo dans Star Wars. Mais c'est aussi la voix de Thomas Magnum, dans la série Thomas Magnum. Donc, la voix de Tom Selleck en VF. Francis Lax, c'est aussi la voix de Looping dans l'Agence Tourisque. Eh oui, cette superbe série des années 80, l'Agence Tourisque. Voilà, et ben voilà, Francis Lax, c'est tout ça. Alors, attention, j'ai l'impression de limiter là au doublage. Évidemment, ce sont des comédiens à la base, hein. Ils sont très forts, et ce sont des comédiens, ils ont fait des planches, ils ont fait tout ce que vous voulez, et ils ont exercé l'activité du doublage. Et on les reconnaît dans ça. Je parle doublage, ça me passe par la tête. J'avais juste envie de dire que j'adore Edgar Givry, qui est la voix française de Richard Dean Anderson, aussi bien dans MacGyver que dans Stargate. Voilà, j'avais envie de le dire. On parlait de Stargate tout à l'heure. Edgar Givry, si tu nous écoutes, parce que je suis sûr que tu nous écoutes. Voilà, on t'embrasse. Merci beaucoup d'avoir fait notre enfance. Et puis le deuxième élément extra-scénaristique qui a beaucoup marqué les Français, c'est la musique. C'est la musique. La musique VF, voilà, elle est iconique. Elle est composée par Haïm Savane et elle est interprétée par l'excellent Lionel Leroy qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était l'année dernière. La musique du générique, du début et de fin, parce que c'est la même, sauf qu'à la fin, en fait, il prend la fin de la musique. En fait, enfin voilà, la musique est coupée en deux, en gros, et le début, c'est au début, et la fin de la piste, c'est à la fin de la musique du générique de fin. Et en fait, elle met en avant le duo qui sauve les rues de Bay City. On peut constater que dans les paroles, il y a exactement l'essence de la série. Humour, amitié, action. D'ailleurs, même dans les paroles, hein, il y a un schéma narratif. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de la musique. Bon, on va la repasser après parce que je l'aime bien. Mais voilà, d'abord la situation initiale. On nous présente Starsky Hutch, leur profession. Voilà, on entend même la sirène de la Grande Torino. Tidi, comme ça. Et ensuite, on nous présente un peu l'amitié des deux personnages, leur personnalité. Et ensuite, élément perturbateur, les méchants. Les méchants arrivent, ce qui entraîne de l'action avec des courses de voitures qui sont dans le couplet, vous allez l'entendre. La résolution du conflit grâce à Huggy les Beautillots, bah oui, mais Huggy sait où ils sont cachés. Et oui, il sait où est-ce qu'ils sont cachés, les méchants en cavale. Et puis enfin, une situation finale, retour au refrain de départ, retour à l'harmonie dans les rues de Bay City, puisque, comme l'indiquent les paroles, des chevaliers qui n'ont jamais peur de rien, ce qui signifie qu'ils ont réussi leur mission. Et on souligne d'ailleurs qu'en fin de refrain, Lionel Leroy change de tonalité. Il augmente d'un demi-ton. On passe d'une tonalité de ré mineur, enfin ré dièse mineur, pardon, à mi mineur. Et en fait, bah, ça illustre tout simplement le courage de nos deux héros, qui prouvent d'ailleurs que Starsky et Hutch peuvent faire plus que ce qu'ils viennent de faire, ce qu'ils viennent d'accomplir, parce qu'on peut aller au-delà, on augmente d'un demi-ton, et bien eux aussi, ils peuvent augmenter leur capacité, leur force, leur courage. Allez, on apprécie ensemble sur Happiness Radio ce générique mythique de Starsky Hutch. C'est maintenant sur Happiness. Restez avec nous. Et oui, cette musique Starsky Hutch exceptionnelle en VF. Oui, oui. Est-ce que vous saviez que la musique en VO n'était pas la même? Eh ben oui, c'est pas Starsky and Hutch. Eh ben non, pas du tout. C'est une musique instrumentale composée par Tom Scott et supervisée par Lalo Schifrin, qui est aussi le compositeur des musiques dans la série. Voilà, parce qu'il faut différencier le générique et la série. C'est une musique très cool, très jazz, mais qui fait ressortir un caractère grave et sévère des enquêtes, tout en glissant un petit peu d'humour avec le saxophone de Tom Scott. C'est maintenant sur Happiness Radio.
Happiness Radio, toujours au plus proche de vous.
Et on se retrouve, les amis, dans ce Peliclap. Et oui, le festival, on parle du festival Sérimania. On parle des séries, en fait. Mais en fait, à la base, c'est le festival Sérimania hein, qui s'est déroulé à Lille du 15 au 22 mars 2024. Et on a pour l'instant parlé du festival en lui-même, de l'édition 2024. Et puis, on a aussi parlé de cette excellente série Starsky Hutch. Nous avez, si vous avez manqué ça, c'est pas grave, parce que il y a un épisode podcast spécialement dédié à Starsky Hutch sur le podcast Peliprod. Mais ne vous inquiétez pas, hein, y a pas de souci. Mais dans tous les cas, Starsky Hutch, c'est pas grave d'avoir manqué le podcast. C'est pas grave d'avoir manqué l'émission. En revanche, ce qui est grave, c'est de ne pas avoir vu un épisode de Starsky Hutch. Ça, c'est super grave. Allez voir un épisode de Starsky Hutch parce que c'est clairement une super série. Et ben là, on va changer un petit peu de série. Voilà, Starsky Hutch, c'est génial, hein,